Vous écoutez On lit pour vous.
Plus de trottoirs, plus de marcheurs. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 mai 2025 dans la presse. L'implantation d'infrastructures qui encouragent la marche, comme des trottoirs, augmente les déplacements actifs selon une nouvelle étude. Au Québec, on élargit des autoroutes, mais on n'a pas d'argent pour que les gens puissent marcher de façon sûre dans leur propre quartier, déplore une citoyenne. Hausse de la marche. Bien des villes et municipalités hésitent à investir dans l'aménagement de trottoirs et d'autres infrastructures favorisant la marche, en raison des coûts élevés et des résultats jugés incertains. Pourtant, ces aménagements sont liés à une augmentation des déplacements à pied, eux-mêmes associés à une amélioration de la santé de la population. C'est ce que met en lumière une nouvelle étude réalisée auprès de 11 000 jumeaux et publiée dans l'American Journal of Epidemiology. 19 minutes par semaine. Les chercheurs ont constaté que chaque augmentation de 1 % de la marchabilité d'une zone se traduisait par une augmentation de 0,42% des minutes passées en déplacement à pied dans la population. À plus grande échelle, cela signifie qu'une augmentation de 55% de la marchabilité du quartier environnant se traduirait par une augmentation de 23% des déplacements à pied, soit environ 19 minutes par semaine pour chaque habitant de cette zone, note l'Université d'État de Washington. Les chercheurs ont donc réussi à démontrer une relation quasi-causale entre la présence d'infrastructures favorisant la marche et l'utilisation de ce mode de déplacement dans la population. Plus de densité. Aménager des quartiers plus densément habités est la clé pour favoriser la marche, tant en ville et en banlieue qu'en zone rurale, signale Glenn Duncan, professeur de nutrition et de physiologie de l'exercice à l'Université de l'État de Washington. Un quartier a besoin de résidents pour être viable, à la fois en matière de résidents qui marchent et de résidents qui marchent vers des destinations ou pour les loisirs à l'intérieur du quartier, dit-il en entrevue. Pas besoin de faire de trottoir. Pourtant, la notion voulant que des aménagements sûrs poussent des gens à choisir la marche n'est souvent pas comprise par les décideurs, estime Angèle Pinault-Lemieux, porte-parole de l'organisme Accès Transport Viable. Pour le vélo, c'est de plus en plus accepté, mais pour la marche, le message souvent ne passe pas, dit-elle. Les élus vont dire « pas besoin de faire de trottoir, il n'y a pas de marcheurs ici ». Mais en fait, c'est l'inverse. Les citoyens n'adoptent pas la marche, car les infrastructures ne sont pas là. Un exemple de succès. Le succès des corridors Vivacité, CVC, de Québec, qui propose des pistes cyclables séparées du trafic motorisé, de même que les trottoirs apaisés dans un cadre moins pollué et moins exposé aux bouchons, en est la preuve. Les ventes chez les commerçants ont augmenté de 10 % en un an, alors que le trafic automobile a diminué sur le chemin Sainte-Foy, illustre Angèle Pinault-Lemieux. La croissance du nombre de piétons a été très forte. Globalement, on sait que les Québécois n'atteignent pas les 30 minutes d'activité physique modérée par jour. On pourrait faire des économies énormes en santé publique si on offrait l'option de la marche. Distance courte. On pense souvent que le Québec n'est pas assez densément peuplé pour favoriser la marche. Mais selon une étude de Statistique Canada, environ 70 % des Canadiens vivent à une distance de marche de 1,5 km ou moins d'une école primaire et près de 46 % résident à moins de 1 km d'une épicerie. Donc, la marche est une option viable, dit Mme Pinault-Lemieux. Mais si l'infrastructure n'est pas là, on disqualifie la marche comme moyen de déplacement. Dans plusieurs municipalités du Québec, Le cœur du village est traversé par une route à numéros, dont la compétence relève du ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, qui tourne souvent le dos aux infrastructures favorisant la marche. C'est inconcevable que le MTMD paie pour la réfection des routes, mais ne paie pas pour des trottoirs. Une rue principale sans trottoir dans un village, ça ne devrait plus exister en 2025. Les enfants ne marchent plus. Le manque d'aménagement pour les piétons et la hausse du trafic automobile découragent bien souvent les déplacements actifs, selon Anne-Julie Réaume, citoyenne de Québec et co-organisatrice du mouvement « Pas une mort de plus ». Le sentiment de sécurité, il vient avec les aménagements. En une génération, on est passé de 80 % des jeunes qui vont à l'école à pied à 20 %. Ça n'a aucun sens. C'est leur autonomie, leur sociabilisation. Le transport actif vers l'école favorise la réussite scolaire. Le ministère parle de mobilité durable, mais avec 52 millions pour tout le Québec. On ne le sent pas dans le budget. On élargit des autoroutes, mais on n'a pas d'argent pour que les gens puissent marcher de façon sûre dans leur propre quartier. C'était Plus de trottoirs, plus de marcheurs, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Accepter un poste de gestionnaire, êtes-vous certain? Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Je comprends entre les branches qu'on va m'offrir un poste de gestionnaire bientôt. Je devrais être content, mais je ne suis pas du tout certain que ça m'intéresse. Et je ne veux pas décevoir les personnes qui pensent m'offrir une opportunité en or. Je suis bien motivé, mais devenir gestionnaire, est-ce vraiment pour moi? Comment trancher la question? Demande Bachir. Un lecteur. Pendant longtemps, devenir gestionnaire a été perçu comme la suite logique d'une carrière réussie. On gravissait les échelons et à un moment, on prenait des gens sous son aile. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes, comme Bachir, remettent cette équation en question. Et ce n'est pas une mauvaise chose de s'arrêter pour y réfléchir. Car devenir gestionnaire, ce n'est pas seulement obtenir un nouveau titre ou une meilleure rémunération. C'est surtout changer de métier. On passe d'un rôle où l'on exécute, crée ou produit à un rôle où l'on coordonne, soutient et développe les autres. Et cette transition n'a rien d'anodin. Il faut aussi considérer ce que vous risquez de perdre en acceptant ce rôle. Le temps de concentration, le plaisir du travail bien fait, la liberté d'horaire ou le sentiment d'être dans sa zone d'expertise. Dire oui à un poste de gestion, c'est parfois dire adieu à ce qu'on aimait le plus dans son quotidien. On pense souvent que le meilleur employé est un gestionnaire en puissance. Mais ce n'est pas si simple. Une étude récente, The Leadership Quarterly 2025, avance une idée intéressante. Promouvoir le plus compétent n'est pas toujours la meilleure décision pour l'équipe. Pourquoi? Parce qu'en le nommant gestionnaire, on le retire, au moins partiellement, du terrain où il excelle. Résultat, on risque de perdre plus qu'on ne gagne. C'est comme si on demandait à Lane Hutson, défenseur étoile du Canadien de Montréal, de devenir entraîneur derrière le banc, alors qu'il est assurément plus utile sur la glace. Dans ce contexte, le doute de Bachir n'est pas un signe d'indécision, mais peut-être un indice de lucidité. C'est même rassurant. Paradoxalement, ce doute est peut-être un indice que Bachir serait un bon gestionnaire. Ironie du sort, selon une étude toute récente, ceux qui lèvent la main pour devenir leader seraient, en moyenne, moins efficaces que ceux qu'on choisirait au hasard. La raison? Une confiance en soi gonflée qui ne rime pas toujours avec compétences réelles. Bref, si vous doutez, c'est peut-être justement bon signe. Réfléchir à ses motivations. Mais alors, comment savoir si le rôle nous convient? Il faut vous poser des questions sur votre motivation à diriger. Plusieurs chercheurs ont démontré que pourquoi nous dirigeons détermine comment nous dirigeons. Si la motivation est liée à des conditions extrinsèques, telles que le statut, l'ego, l'argent et le pouvoir, forts sont les risques que vous ayez un succès mitigé dans le poste. Si elles sont liées au désir d'être utile, de faire une différence et de servir, ce sera évidemment préférable pour votre bonheur et votre performance de gestionnaire. Gérer une équipe, c'est parfois recevoir des confidences lourdes, encaisser des critiques et prendre des décisions difficiles. Le gestionnaire est souvent pris entre deux pôles, la direction d'un côté, l'équipe de l'autre. Et il arrive qu'il ne se sente plus vraiment chez lui, ni dans l'un ni dans l'autre. C'est pourquoi il faut apprendre à désacraliser la promotion. Monter ne veut pas dire réussir. Il est tout à fait valable de vouloir approfondir son expertise plutôt que de gérer une équipe. De dire « je veux continuer à progresser, mais dans la voie qui me ressemble ». En somme, si vous hésitez à accepter un poste de gestion, ne vous blâmez pas. Ce doute, loin d'être un frein, est peut-être le signe que vous avez déjà ce qu'il faut pour prendre une décision éclairée. Le rôle de gestionnaire peut être exigeant, stimulant, transformateur. Mais il n'est pas pour tout le monde. Et surtout, il ne devrait jamais être la seule voie vers la reconnaissance, même si votre oncle vous demande à chaque party de Noël si vous allez enfin monter les échelons dans l'entreprise. C'était accepter un poste de gestionnaire. Êtes-vous certain? Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 22 avril 2025 dans La Presse.
Grande séduction de l'Université Laval dans les campus américains. Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir. Autour de la ville de Québec, de dérouler le tapis rouge pour attirer à l'Université Laval des scientifiques désabusés par le gouvernement de Donald Trump. Le maire Bruno Marchand, convaincu que la crise au sud de la frontière crée une occasion à saisir, invite même la population à faire don de leur remboursement d'impôts à l'université pour l'aider à recruter des perles à l'international. Les assauts répétés de la Maison-Blanche contre le milieu universitaire prennent l'allure d'une guerre contre la science, selon la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour. Dans ce contexte, Québec peut devenir une terre d'accueil de choix pour les universitaires. Nous n'aurions jamais pensé qu'en si peu de temps, nous serions ici aujourd'hui à dénoncer des attaques contre les universités dans le grand pays de la science, a déploré la rectrice. Avec un vice-président qui dit que les universités sont les ennemis, a renchéri le maire à ses côtés. tous deux affichaient un front uni avec Québec International, le bras économique de la ville à l'étranger, pour mousser l'attractivité de la capitale nationale aux États-Unis et pour tenter, à l'instar de l'Université de Montréal, de l'Université de Toronto et d'autres établissements européens, de recruter des scientifiques échaudés par les dérives idéologiques de Washington. L'exil volontaire tenterait plusieurs d'entre eux. Selon un sondage paru cette année dans la prestigieuse revue Nature, 75% des 1600 scientifiques américains interrogés ont l'intention de partir vers d'autres cieux, majoritairement en Europe et au Canada. La plupart d'entre eux ne se sentent plus les bienvenus dans leur propre pays, a souligné Sophie Damour. Je suis convaincu que Québec peut être une véritable terre d'accueil. L'Université Laval voit là une opportunité qui est importante d'accueillir dans la capitale des chercheurs américains, mais aussi des collègues d'ailleurs qui avaient comme idée d'aller aux États-Unis. Cette occasion, elle est maintenant et elle ne repassera pas, a souligné la rectrice, d'autant plus que son établissement aura 70 postes de professeurs à pourvoir cette année, soit un des plus grands plans de recrutement annuel de son histoire. La grande séduction est d'ailleurs déjà en marche, a confirmé Mme Damour. Il y a certainement une dizaine de contacts qui sont actifs actuellement et il y a des personnes qui seront rencontrées bientôt à Boston. Aide gouvernementale et remboursement d'impôts. Plutôt que de jeter un large filet dans les campus américains dans l'espoir de repêcher le plus grand nombre de candidatures possibles, l'Université de Québec entend plutôt dénicher des perles, capables de garnir ses domaines d'excellence. Quand on dirige une équipe de hockey et qu'on a besoin d'un défenseur, on ne va pas recruter un ailier droit, a illustré la rectrice. Cette campagne de recrutement vise surtout à attirer des scientifiques dans les créneaux stratégiques de la photonique optique, des technologies propres et des sciences de la vie. La qualité de vie de Québec ne suffira toutefois pas à séduire les sommités américaines et internationales. Sans l'aide des gouvernements supérieurs, des obstacles pourraient se dresser devant les ambitions de la capitale. Il faut d'abord éliminer la paperasserie et les embûches bureaucratiques pour éviter que les scientifiques et leurs familles doivent passer par la maison des fous avant de poser leurs valises au Québec, demande le maire. Il faut ensuite, pour surmonter la barrière de la langue, garantir une francisation adaptée à la réalité des universitaires et de leurs proches. L'Université Laval offre déjà des programmes de francisation financés à même son propre budget pour les personnes recrutées et leurs conjoints ou leurs conjointes. Nous avons constaté au fil du temps que si nous ne faisions pas ça, nous perdions des familles, a maintenu la rectrice. C'est plus facile pour les villes anglophones d'attirer que pour les villes francophones, et nous aimerions que ce soit reconnu. Conscient du contexte budgétaire difficile à Québec et à Ottawa, l'Université Laval demande un appui financier de 4 à 5 millions de dollars au gouvernement pour l'aider à promouvoir ses attraits à l'international. L'établissement compte aussi puiser à même ses budgets et profiter de la philanthropie pour attirer les perles convoitées. Le maire de Québec entend lui-même donner à l'Université Laval et invite la population à faire de même. S'il y en a qui ont un beau remboursement d'impôts, je pense que nous pouvons faire un don à notre université. Ça va servir très clairement à quelque chose qui nous enrichit tous, c'est-à-dire la science. C'était « Grande séduction de l'Université Laval dans les campus américains », un texte de Sébastien Tanguy paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir.
Anne-Élisabeth Pilote, « Rallumer les étoiles », une entrevue dirigée par Alexandra Mignot, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires. Avec « Contour », Anne-Élisabeth Pilote offre un premier roman lumineux, ce qui contraste avec l'obscurité qui y règne. Après plusieurs années de voyage, Ellie s'installe dans la maison de sa grand-mère, récemment décédée. Un jour, tout devient sombre alors que le ciel s'éteint. En perte de repères et essayant de s'ancrer, Ellie noue des liens avec ses voisins, Margot, une artiste, et son fils Francis. La jeune femme a l'impression que la toile de la peintre lui permettra de circonscrire l'état actuel des choses, de combler le vide. Mais cette dernière compte dissimuler son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Dans cette histoire poétique, envoûtante et philosophique, parée de douceur et de sensibilité, Ellie erre, écrit, tente de colmater ses deuils et de s'accrocher à ce qui reste. Le ciel qui s'éteint, c'est vraiment une image forte et originale. Comment est née cette idée? C'est un peu par hasard, comme ces éclairs d'inspiration qui nous frappent parfois sans crier gare, que j'ai eu envie d'écrire à partir de cette disparition. Il s'agit de mon moteur d'écriture. J'étais en Amérique du Sud depuis un très long moment et je commençais à réaliser que le vide qui m'habitait ne serait pas comblé par ce voyage. Je ressentais une terreur existentielle assez intense que j'ai voulu recréer, métaphoriquement, par un cataclysme réel surgissant dans un univers fictif. Alors que plus rien ne semble avoir de sens, Ellie se lie d'amitié avec ses voisins, s'accrocher aux autres, créer des liens, être ensemble. Est-ce une façon de contrer le néant? Absolument. L'obsession que développe Ellie pour sa voisine survient après la perte de tous ses repères. Sa grand-mère vient de mourir. Les étoiles se sont éteintes. Elle se cherche une figure maternelle, en quelque sorte, qui puisse la réconforter. Il y a cela, mais aussi le fait que sa voisine peigne. L'art de cette dernière fascine Ellie, qui s'imagine que le sens de la catastrophe lui apparaîtra lorsqu'elle pourra voir le tableau que Margot est en train de réaliser. J'ai voulu écrire sur ces moments où, dans l'existence, on s'accroche à une personne désespérément, pour le meilleur et pour le pire. La relation qu'entretiendra Ellie avec Francis, le fils de sa voisine, sera, quant à elle, plus discrète, mais tout de même importante. Je pense que j'ai voulu explorer plusieurs facettes du désir, de cet élan qu'on a vers les autres et qui nous aide à traverser les moments de crise. Qu'est-ce que le titre « Contours » évoque pour vous? Les contours de la création. Lorsque j'écris, j'ai l'impression que je n'arrive jamais à dire exactement ce que je voudrais dire. Comme mon personnage, le sens ne cesse de m'échapper. Je n'arrive toujours qu'à esquisser la forme des choses. J'ai écrit un livre « Cage » dans lequel j'ai placé des personnages aux prises avec ce même problème. L'écriture pour Ellie et la peinture pour Margot. J'avais envie de voir ce qu'elles en feraient. La disparition du ciel, ainsi que celle des gens, sont abordées dans le roman. En quoi les thèmes de l'absence et de la perte vous inspirent-ils? L'absence est un moteur d'écriture extrêmement puissant. Il s'agit d'un creux à combler qu'on doit remplir. Encore plus qu'une catastrophe, la disparition des astres est un point de départ. Il n'y a plus d'étoiles. Et maintenant, quoi? Que faire de tout cet espace vide? J'aime bien le parallèle qu'il y a à faire entre une toile vierge et le ciel noir à partir duquel j'ai construit mon roman. Comme le personnage de Francis qui, en tant que peintre en bâtiment, se charge d'effacer les traces de la vie passée pour permettre à une nouvelle œuvre d'exister. L'absence initiale est nécessaire dans la logique de ce récit pour que des événements se produisent et que des personnages interagissent entre eux. Selon vous, comme le tente Élie, est-ce qu'écrire permet de créer à partir du vide, de retenir ce qui disparaît? Oui, d'une certaine façon. Je pense qu'en se mettant à écrire sur les événements qui se sont produits depuis la disparition des étoiles, Élie réussit à retenir quelque chose, du moins ses propres impressions. Et c'est tout ce qu'on peut faire, en fin de compte, confrontés que nous sommes au passage du temps et à la finitude des choses. Retenir ce qu'on peut en l'écrivant ou en le peignant. Et peut-être que ce duel épique avait commencé bien avant la disparition, me disais-je. Peut-être qu'on était en train de vivre la bataille ultime, le combat final du creux contre le plein, du sens contre le non-sens, de l'ordre contre le chaos. Mais on résistait de toutes sortes de manières. Il était impératif de résister, lit-on dans le roman. Avec Margot qui peint et Élie qui tente d'écrire, l'art et la création jalonnent le récit. Pour vous, l'art est-il une manière de résister? Oui, mais ce n'est pas la seule. C'est dans le mouvement qu'on résiste, dans les multiples tentatives de trouver un sens, en creusant, en courant, en questionnant le tarot, en aidant une colonie d'oiseaux à survivre à l'hiver, etc. Mes personnages sont tous plus ou moins désespérés, mais ils ne stagnent pas. Ils agissent pour ne pas sombrer dans l'absurdité. Même si l'atmosphère s'avère apocalyptique et sombre, le roman est empreint de lumière. Était-ce important pour vous que votre histoire soit teintée d'espoir? Cette question me fait très plaisir. Ce fut tout un travail de réussir à trouver la lumière dans cet univers inquiétant et sombre dans lequel j'ai placé mes personnages, comme il est difficile de rester positive dans le climat politique actuel. Je ne suis pas certaine d'y arriver complètement. Je veux dire qu'Élie n'est pas totalement guérie de son vide existentiel à la fin, mais je sens qu'elle arrive à mieux cohabiter avec lui. C'était Anne-Élisabeth Pilote, Rallumer les étoiles, une entrevue dirigée par Alexandra Mignot, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires.